9h15, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans les grands matins Sud Radio avec nous là en studio direct et puis Jean-Marie Bordry en direct de son salon. Mon cher Jean-Marie, là on attend un petit peu de caler nos téléphones avec nos invités.
C'est bien normal, bah, tout le monde est confiné Laurence d'ailleurs.
Bah, voilà, le temps qu'on cale nos prochains invités du petit déjeuner de l'actu ou d'avoir Rémi Pernelet au téléphone pour évoquer les audiences télé. Est-ce qu'il y a des commentaires sur nos réseaux suite à cette question que l'on pose depuis ce matin? Êtes-vous prêt à supporter un confinement jusqu'à fin mai peut-être, puisque c'est ce qu'annoncera peut-être le président Macron ce soir à la télé? Il y a des commentaires qui retiennent votre attention,
cher Jean-Marie. Mais ils reviennent tous sur un thème, si vous voulez. Oui. Ils reviennent sur le fait que, bon, d'accord, on verra si on doit le supporter, de toute façon, on le fera jusqu'à fin mai, mais il nous faut des masques, il nous faut des gants. C'est un peu ce que nous dit, par exemple, sur Twitter, Boulanger, un auditeur de Sud Radio, qui nous dit pas de bras, pas de chocolat, ça c'est une référence à un film. Il dit pas de masque, pas de gants, pas de lunettes, pas de mesures d'hygiène, pas de tests, pas de déconfinement. Ça c'est du bon sens. Effectivement, ce sera difficile. On en a d'autres qui nous disent, oui, on n'a pas le choix, ils sont très nombreux à nous dire. Y en a un qui nous dit même, moi je suis prêt au confinement jusqu'à fin mai 2021. Vous voyez, quand même assez endurant et ambitieux notre auditeur. On en a d'autres aussi, bien qui sont assez pessimistes. Mais ce qui me marque le plus, c'est quand même une forme d'exaspération, Laurence, en fait, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens commencent à trouver le temps long, et plus les Français trouvent le temps long, plus ils s'impatientent et s'exaspèrent, notamment de tout ce qu'ils voient comme une impréparation de leur pays face à cette crise. Vous avez pas mal de comparaisons, par exemple, avec d'autres pays, notamment celle qui nous fait le plus mal, parce qu'on adore se comparer à eux, avec l'Allemagne. Effectivement, officiellement, il y a autant de cas de Covid en France et en Allemagne. Le confinement y est un petit peu moins dur, mais il y a surtout beaucoup moins d'hospitalisés et en tout cas beaucoup moins de décès. Comme si un peu, la France se portait un peu plus mal. Autre question, d'ailleurs, qu'on va voir avec nos débatteurs. Laurence, justement, les conséquences de la crise, justement.
Ils sont là.
Est-ce qu'on va travailler plus?
Fameux travailler plus préconisé par le MEDEF. Le petit d'âge de l'actu, ils sont là avec nous au téléphone. Bonjour François-Olivier Gisbert. Allô François-Olivier Gisbert. Le temps qu'il prenne un café, qu'il se remette au téléphone. C'est le confinement à Marseille. Bonjour Vincent Cespedes. Il est là, Vincent Cespedes.
Nous allons y arriver, écoutez, c'est ça le
allô problème. Ah, bonjour, voilà. Ça va? Philosophe confiné chez lui à Paris.
Exactement.
Et François-Olivier Gisbert, qu'on va retrouver dans un instant à l'autre, qui est à Marseille, du côté de Marseille, confiné également. Alors, on en parle avec Jean-Marie Bordry, effectivement, cette allocution du président Macron. Bon, on prend un peu d'avance, Quatrième semaine de confinement, quatrième déclaration pour le président Macron ce soir à 20h02, pour permettre aux Français d'applaudir les soignants à leur fenêtre. Alors, forcément, prolongation du confinement, peut-être jusqu'à la fin mai, masque obligatoire ou pas, quel scénario de sortie de crise par tranche d'âge? Pour vous, Vincent Cespedes, c'est un peu le grand oral ce soir aussi pour Macron. Qu'est-ce que vous attendez de lui sur le fond et la forme, sachant que vous n'êtes pas forcément un macroniste convaincu,
Alors, ce que j'attends de lui, il y a ce que je prévois de lui et ce que j'attends de lui.
Dans l'attente, il y a
l'idéal. Mais dans la prévision, j'imagine évidemment qu'il va durcir les choses, puisque dans cette logique de confinement, il faut que ça dure. Et tant qu'on n'a pas les tests, la panoplie de tests, les masques suffisants et autres, ça va être un peu compliqué d'alléger et d'assouplir. Il a déjà du mal à se faire obéir, notre cher Macron. Les beaux jours arrivent, l'impatience est là, il y a déjà le hashtag stop confinement qui plafonne dans les réseaux sociaux, donc il va, je pense, durcir. Il va évidemment éviter toute forme de mea culpa, ce qu'attendent à mon avis aussi un tout petit peu les Français, c'est une reconnaissance d'une certaine transparence concernant ce qu'on peut qualifier d'incurie, de gabégie, ou en tout cas de retard à l'allumage, dramatique à l'allumage. Donc non, je pense qu'il va passer outre tout ça. Il va nous faire, je pense, des formules assez creuses sur l'avenir, dans un langage start-up nation, en disant on va regarder tous ensemble plus loin, plus haut. J'ai l'impression que ça va être assez creux et ferme et purement formel, sans trop d'empathie.
On va demander l'avis à François-Olivier Gisbert, qu'on a retrouvé en direct, bien sûr, confiné chez lui à Marseille. Bonjour François-Olivier.
Bonjour.
Ça va?
Très bien, et vous?
Oui, écoutez, ça va. Ravi de vous retrouver, en tout cas, à l'antenne, à distance. Alors forcément, là, on anticipe un petit peu. Vous, qu'attendez-vous de cette déclaration du président Macron? Certains disent qu'il faudrait qu'il renoue aussi avec un discours de confiance et pas de défiance, un discours d'empathie aussi, et de clarté.
Écoutez, moi, j'ai pas les informations qu'a Vincent Cespedes. Apparemment, il sait tout. Moi, je sais pas du tout.
Ça y est, ça commence.
J'attends de savoir. J'attends ce qu'il va dire. Je pense que c'est sûr que il fera pas de mea culpa. Ça, c'est clair. Bon, la France a pas été brillante dans cette affaire. C'est vrai que quand on compare les chiffres avec l'Allemagne, c'est complètement dingue. C'est-à-dire, l'Allemagne, il y a quand même 5 fois moins de morts parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de tests parce que c'est pas du tout l'Europe, comme on dit, ou la mondialisation. Ou l'absence de frontières qui fait qu'aujourd'hui nous manquons de tout, nous manquons de masques, nous manquons de tests de dépistage, nous manquons de matériel de dépistage plutôt, et puis nous manquons également de respirateurs artificiels. C'est parce qu'en fait il y a une forme d'impréparation, c'est bien ça, et cette impréparation vous l'avez vu dans la plupart des pays, que ce soit d'ailleurs les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, mais enfin bon, il y a le contre-exemple de l'Allemagne qui est assez frappant et même très impressionnant. Donc on n'a pas été très bon dans cette affaire. Je pense que c'est pas trop le moment. C'est-à-dire, contrairement à Vincent, moi, je pense que c'est pas le moment parce qu'on n'en est pas là. C'est-à-dire, le confinement n'est pas terminé. C'est ça l'horreur de l'affaire. Je pense qu'on arrive vraiment, comme le disait Vincent, je suis d'accord là-dessus, il y a un ras-le-bol du confinement là, aujourd'hui. On le sent très bien. Il fait beau, les gens ont envie de sortir. Bon, et on est obligé de continuer. On est obligé de continuer parce que justement on manque de matériel de dépistage, etc. Parce que c'est vrai que si on adoptait les attitudes de en Corée du Sud ou à Taïwan, eh ben on vivrait à peu près normalement, mais on manque de tout, on manque de masques, on manque de matériel de dépistage. Donc ça va continuer encore 3 semaines.
Ah bah ça, on n'en sait rien, peut-être même jusqu'à la fin mai, on n'en sait rien. Ouais,
oui,
ouais.
Oui, on dit jusqu'à la fin mai, on dit que ça pourrait commencer le 4 en fait, le déconfinement, et puis par étapes comme ça jusqu'à la fin mai. En fait, de toute façon, c'est ça qu'on attend tous. Moi, j'ai pas plus d'informations que ça, parce que en fait, j'ai des informations, mais comme elles sont très contradictoires, et que ça ressemble un peu à des ballons d'essai, vous savez que les pouvoirs balancent comme ça pour voir un peu quelles sont les réactions des uns ou des autres. J'ai pas très confiance dans ce que j'entends, même quand ça vient de la bouche des cheval.
Ouais, c'est ça. Jean-Marie, il y a une question hein, quand même qu'il faut aussi poser par rapport aux libertés individuelles aussi, liberté confinée, et la question du tracking, du traçage numérique, même si c'est pas forcément ce qu'évoquera le président Macron ce soir.
Mais c'est pas forcément ce que va évoquer le président Macron ce soir. D'ailleurs, Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, l'a dit. On est en train de travailler dessus. C'est une application qu'on essaye de développer, notamment avec l'Allemagne et la Suisse, qui permettrait, de nous dire si jamais on a été en contact avec une personne qui a été contaminée par le Covid. Il n'empêche que ça fait extrêmement peur à un certain nombre de nos concitoyens. Du coup, est-ce que c'est éthique? C'est une question qu'on pourrait poser à Vincent Cespedes, tout simplement. Est-ce que c'est éthique et est-ce que c'est normal, finalement, de faire installer aux Français plus tard une application qui leur permettrait de leur signaler s'ils ont été en contact ou pas avec des gens qui sont contaminés?
Alors, éthique, ça ne se pose pas tellement comme question puisque ça dépend d'une culture. Par exemple, en Corée du Sud ou à Taïwan, je parle vraiment de démocratie parce que ça existe aussi au Vietnam, mais voilà, c'est une démocratie plutôt à géométrie variable. Mais en Corée du Sud et à Taïwan, ils l'ont fait tout de suite, ça, et ça marchait excellemment bien. Alors, évidemment, ça partie d'une culture où l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel et sur les libertés individuelles. Les citoyens acceptent de suspendre un tout petit peu leur intimité, leur vie privée pour l'intérêt collectif. En France, c'est pas du tout la même culture. Et donc, c'est plutôt une question culturelle qu'une question éthique en soi. Il est évident que si on en a marre du confinement, il va bien falloir déconfiner ceux qui n'ont rien et confiner en attendant bien sûr de les confiner ceux qui ont quelque chose. Et donc là, je pense que toute la question de ce tracking repose sur est-ce qu'on est garanti qu'une fois qu'on est sorti de cette affaire, tout ce qui a été mis en place dans le suivi, le tracking et autres, va vraiment se lever.
Vincent Cespedes, pardon, on ne vous entend pas très bien. Changez de pièce.
Ah, oui.
ou allez à vos fenêtres ou à votre balcon. On va faire rebondir à ce sujet François-Olivier Gisbert sur le traçage numérique, peut-être futur, lors du déconfinement.
Oui, mais de toute façon, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et c'est vrai, comme l'a dit Vincent, ça n'est pas du tout dans notre culture, mais en même temps, je dirais d'une certaine manière, le coronavirus n'est pas non plus dans notre culture. Hein. C'est-à-dire
dans la culture de personne. Hein, oui.
Voilà, on a l'image de l'Asie. Souvenez-vous, c'était déjà le cas il y a 20 ans, il y a 10 ans. Tous ces gens avec des masques, c'était pas seulement la pollution, c'était aussi la crainte de contagion. Je pense qu'on va rentrer dans une ère où c'est pas le premier cas de coronavirus.
virus qu'on va avoir. D'ailleurs, il y en a eu dans le passé en France. Il y a eu la grippe dite espagnole, en fait, qui venait de Chine. Il y a eu la grippe de Hong Kong.
Oui, on en a parlé tout à l'heure avec l'historien Olivier Faure. Hein. Oui,
Donc, en fait, à mon avis, on va être confronté plus à ça dans les prochaines années, parce qu'on voit très bien que ce virus est particulièrement mutant. Donc, je pense qu'on est obligé de changer notre logiciel. Et de toute façon, je pense qu'entre le tracking et la mort, je pense que personne ne va hésiter. Bon, c'est vrai qu'il faut se faire à cette idée, mais quand on voit les effets incroyables du dépistage et du tracking sur les décès, je pense que c'est quelque chose vers lequel, évidemment, on est obligé d'aller. Mmh. Parce qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'il y a une épidémie, tout arrêter l'économie pendant
deux mois. François-Olivier Gisbert, justement, tout à l'heure, on a eu une des voix du MEDEF, hein, parce que vous l'avez entendu comme nous, le MEDEF dit qu'il va falloir que les Français travaillent plus après le déconfinement pour sauver nos entreprises. Alors, on dit souvent que le monde d'après ne sera plus pareil. Pas franchement, là, travailler plus, sacrifice en plus aussi.
De toute façon, c'est sûr, il faudra faire quelques efforts. Vous savez, en heure annuelle, travailler la France, si on regarde les classements de l'OCDE, elle est tout en bas, avec d'ailleurs l'Allemagne. Mais l'Allemagne, il y a beaucoup de travail partiel, ce qui n'est pas encore le cas tout à fait en France, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc,
Ça ne vous choque pas.
Non, mais attendez, il y a des efforts à faire. Regardez aussi la retraite, on part beaucoup plus tôt que les autres. Donc, d'une certaine manière, on travaille moins. Donc, c'est un sujet. En même temps, je pense que s'il veut aller dans cette direction, Macron peut pas l'imposer. C'est-à-dire que ça, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire s'il demande ça, il est obligé de proposer autre chose. Parce que c'est sûr que là, le pays n'est pas en état d'accepter brusquement après cette crise. Parce que c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que il va y avoir des règlements de compte, il va y avoir beaucoup de violence, à mon avis, après cette quand on va sortir de là, puis il y aura aussi la joie de se retrouver, etc. Et donc c'est, disons, une est toujours un peu difficile pour poser ce genre de problème. Mais on va être obligé de le régler d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas être indéfiniment le pays qui a la durée de vie la plus courte au travail, et puis également, dans l'heure annuelle travaillée, se retrouver toujours en bas du classement. C'est pas possible.
Très rapidement, je ne suis pas certaine que Vincent Cespedes soit complètement d'accord avec...
Non, je ne suis pas d'accord.
Le travailler plus.
C'est pour ça qu'on débat, non ?
Bah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on vous réunit d'ailleurs. C'est ce qui est bien.
Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve que le MEDEF, là, rentre à nouveau dans une caricature de lui-même. Caricature. C'est scandaleux, déjà, de dire ça maintenant, de préparer, parce qu'on est tous confinés, on est dans cet sentiment d'apesanteur, d'irréalité, où bizarrement, le temps passe super vite, c'est ça qu'on découvre.
Ah bon, vous trouvez ?
C'est une expérience philosophique, je crois, que tout le monde découvre, c'est que quand on est confiné avec les enfants, avec les technologies qui font qu'on discute même avec les anciens amis, qu'on se reconnecte, eh bien, le temps passe très vite, mais les gens n'aiment pas ça, bien sûr, les gens n'aiment pas être confinés, donc on est en train de lutter. Mmh. On est dans un effort collectif et on nous dit, oui, vous allez bosser les petits gars. C'est caricatural. Je pense effectivement qu'il y aura ce mélange de joie et de colère qui font les grands mouvements sociaux. Et là, on aura que ça à faire penser l'après-corona, on le fait maintenant. Et puis quand on sera dans l'après, je pense que ça va vraiment faire bouger les lignes.
On a Jean-Marc qui nous appelle de Tarbes avec nous au 0826 300 300. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous vouliez intervenir à ce sujet, justement, par rapport au travail, par rapport à la reprise, par rapport aux sorties de crise.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis agent de sécurité sur un site industriel qui a un rapport avec l'aéronautique. Nous savons déjà que la reprise sera très difficile. Les avions étant déjà cloués au sol, les personnels qui sont en CDD, voire en intérim, ne reprendront pas, ça c'est clair. Il y a des dérogations qui sont données par le gouvernement justement pour les entreprises. Étant agent de sécurité, je pousserai, si vous me permettez, un tout petit coup de gueule.
Non, bien sûr, allez-y, c'est fait pour.
Le coup de gueule est que nous sommes absolument pas équipés. Nous sommes agents de sécurité, nous sommes le premier maillon bien avant les pompiers lorsqu'il y a un souci sur une entreprise, lorsqu'il y a un souci dans un magasin. Par exemple, je parle des SIAP, donc du service d'intervention et d'aide à la personne. Lorsqu'une personne a un accident, quel qu'il soit, dans un magasin, nous sommes en rapport avec cette personne. Nous ne sommes pas équipés. Mmh. Nous n'avons absolument pas de masque. Nous n'avons pas de lunettes. Et nous avons actuellement, dans nos rangs, 6 morts. Et dans une entreprise, qui a un rapport avec la mienne, 2 agents de sécurité sont actuellement dans le coma.
Ah oui.
Ils sont intubés. C'est... Nous savons très bien qu'ils ne reviendront jamais. Ça, c'est clair. Ils sont intubés, ils sont dans le coma. C'est fini pour eux. La CGT portera plainte contre l'entreprise qui a embauché ces deux agents. Nous avons demandé à nos employeurs ce qu'ils comptaient faire parce qu'ils nous envoient des mails avec les gestes barrières. Lavez-vous les mains, mettez les gants. Si une personne tousse, mettez les masques, ce que nous n'avons pas. Oui. Protégez-vous les yeux. Nous n'avons pas de lunettes, donc on ne sait absolument pas. Nous sommes dans une entreprise où les personnels ont repris partiellement. Il y a à peu près entre 100 et 200 personnels qui travaillent chaque jour en 2x8. Ils travaillent pour vider les entrepôts, mais la reprise va être très difficile.
Ouais, je comprends.
L'entreprise pour laquelle l'entreprise je suis en sous-traitance, va licencier les personnels, même en CDI. Donc il va y avoir des grosses coupes. Je me demande comment les personnes du MEDEF vont pouvoir faire pour ces personnes, puisqu'il faut travailler plus, on veut bien travailler plus. Nous sommes passés, nous, de 48 heures de travail par semaine à 60 heures.
Ouais.
Nous avons eu ces dérogations.
C'est énorme.
L'entreprise, c'est énorme. Mais bon, certains le font, en Australie ou autre. Hein. Sur le site où je travaille, nous sommes tous des anciens militaires, donc il n'y a aucun souci. Nous ne faisons absolument pas jouer de droit de retrait. Mais nous sommes obligés d'aller au contact des salariés qui n'ont pas de masque non plus, tout simplement pour leur demander les heures, parce que dans les bureaux, personne ne sait, navigue à vue en fait, ils ne savent absolument pas ce qui va advenir. Et quand on leur demande demain, les gens travaillent pas, ils travaillent en 2-8, en 3-8, la seule réponse que nous ayons, c'est on ne sait pas.
C'est ça.
Donc on va voir les ouvriers sur leur lieu de travail, on discute avec eux. On reçoit des camions. La semaine dernière, avec un collègue, nous avons reçu des camions qui venaient d'Espagne, de Madrid. La frontière était fermée. Nous savions que le pic épidémique en Espagne n'était pas encore là. Ils venaient de Madrid. Et le chauffeur aussi. Le chauffeur devait repartir sur Nantes parce qu'il fallait une commande pour Boeing qui partait en urgence. Je prends les cartes d'identité. La personne est à 50 cm de moi, puisque la seule séparation que nous ayons, c'est un comptoir. Je prends donc sa pièce d'identité, je lui donne un badge, il remonte dans son camion et il va soit chargé, soit déchargé. La personne est à 50 cm de moi sans aucune protection. Ça fait deux semaines.
Non, mais c'est dingue. Ouais. Pardon, Jean-Marc, on est très, très en retard. On vous aurait écouté encore bien plus longtemps. Enfin, en tout cas, merci pour ce témoignage qui est à la fois... poignant, hallucinant et scandaleux aussi. C'est
malheureusement tristement révélateur.
C'est ça. Merci François-Olivier Gisbert d'avoir été avec nous ce matin. Belle journée du côté de Marseille. Merci Vincent Cespedes. Je rappelle que un petit mot rapide, vous animez des philo Covid en live deux fois par jour sur votre groupe YouTube et Facebook avec votre communauté où à la fois ça philosophe, ça parle politique, ça parle Macron, etc. Et d'ailleurs, vous allez diffuser cet après-midi à 16h le discours idéal d'Emmanuel Macron que vous avez imaginé tous ensemble. On sera bien curieux de voir ça. Allez, à suivre dans quelques instants les témoins experts Sud Radio. À tout de suite. Bonjour Serge Guérin.
Mes hommages du jour.
Mes hommages, c'est comme ça qu'il se salue toujours, ça fait du bien. Je rappelle que vous êtes bien sûr sociologue, spécialiste des questions du vieillissement et de l'intergénérationnel. Alors, forcément, vous suivez de près la contagion qui progresse vite parmi les personnels et les résidents vivant en EHPAD. Comment vous expliquez depuis le début l'opacité autour des chiffres, des décès, des personnes contaminées en EHPAD? Même aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir quels sont les bons chiffres, sachant que ça progresse vite, a priori.
Oui, et puis on parle des EHPAD, mais il y a aussi toutes les personnes âgées à domicile qui sont parfois confinées et isolées. Et là, je dirais qu'on a encore moins de chiffres et encore moins de regards. Eh bien, écoutez, je crois que malheureusement, la première raison, c'est une certaine indifférence, c'est une certaine priorité qui a été faite, ou de se dire « les plus âgés, c'est pas très important ». Donc il y a eu quelque chose certainement autour de cela. Et puis après, la deuxième chose, c'est... il faut faire des choix, il y a des arbitrages, on a pris du retard. Donc, tout ça fait que ce qu'ils me disent, moi j'ai des étudiants qui sont sur place, où je travaille évidemment avec plein de ces personnes, et le terme qui revient très très souvent, c'est on est la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sentiment dans les personnels, chez tout le monde, d'être un peu abandonné ou de ne pas être prioritaire.
C'est ce que ressent d'ailleurs le personnel en EHPAD aussi. Jean-Marie, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire de la Commission européenne, on en a parlé tout à l'heure avec Elisabeth Lévy, c'est quand même hallucinant cette annonce.
Cette annonce, en tout cas, oui, cette recommandation. recommandation avec Ursula von der Leyen qui recommande de repousser le déconfinement des personnes les plus âgées. Alors c'est vrai que c'est celles qui risquent le plus finalement si jamais elles attrapent le Covid. Alors est-ce que, pareil, c'est la même question, est-ce que c'est moral de demander aux personnes de plus de 70 ans de rester chez elles plus longtemps ou pas, Serge Guérin?
Bien, à la limite, c'est, on veut faire quoi? C'est-à-dire qu'on veut que les personnes meurent de tristesse, d'isolement, de solitude.
Voilà.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dirais que, bien sûr que, et je ne suis absolument pas scientifique, et il y a plein de précautions à prendre, et ainsi de suite, mais on a aussi tous besoin d'estime de soi, on a tous besoin de liens avec les autres. Donc à un moment donné, il faut quand même faire attention à tout cela. Et puis, une personne de 70 ans et une autre personne de 70 ans, ce n'est pas nécessairement la même situation. Alors, plus on sera, je dirais, prophylactique autour, et moins il y aura de risques pour ces personnes-là. Mais en tout cas, d'annoncer comme ça, de manière assez, assez violente, c'est pas grave, pendant un an et demi, elles vont rester, rester chez elles, évidemment, ça paraît assez dramatique. Surtout que je rappelle que très souvent, c'est quand on vient chez elles ou quand on vient dans la maison de retraite que finalement, on apporte avec soi le risque. Donc c'est si simplement, je dis simplement avec plein de guillemets, mais si on est testé de manière sûre, du coup, on peut venir voir les personnes, par exemple. Donc du coup, là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir autrement. En tout cas, le dire de cette manière aussi, je dirais, légère, est quand même hyper violent.
C'est ça. Parler des tests, en même temps, je crois qu'on a calculé, ça représenterait 1 million de tests pour les EHPAD, aussi bien pour les personnels et les résidents. Ça semble énorme, quand même, selon ce fameux plan annoncé par Olivier Véran. 1 million de tests.
Oui, et il y a encore plein d'endroits, plein de maisons de retraite où il n'y a pas encore suffisamment de masques et autres. Donc d'un côté, on vous explique ce qu'il faut faire, de l'autre côté, il n'y a pas nécessairement tout le temps l'ensemble des produits nécessaires. Donc là, il y a un gros problème même.
Ouais. Alors, on a tous un parent, on a tous un grand-parent, en EHPAD ou en maison de retraite ou chez elle. Honnêtement, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent au standard et qui s'interrogent. Est-ce que parfois, en les appelant trop ou plus que d'habitude, est-ce qu'on risque pas finalement de les angoisser plutôt que de les rassurer?
Je crois qu'avant qu'on appelle trop nos proches, il va se passer du temps, quoi. C'est-à-dire que ma crainte, c'est plutôt qu'on les appelle pas assez. Alors, ensuite, le problème, c'est bien sûr, c'est la qualité d'autonomie de la personne. Est-ce qu'elle peut répondre au téléphone toute seule ou est-ce qu'elle a besoin d'un soignant avec elle? Évidemment, si le soignant il est déjà complètement débordé, donc là, ça pose aussi d'autres problématiques. Mais a priori, en prenant en compte l'infrastructure, je dirais, les conditions, je ne pense pas qu'on les appelle trop. Ensuite, quand on appelle, alors tout dépend aussi de la situation de la personne. Est-ce qu'elle a un problème cognitif et du coup, elle ne va pas nécessairement comprendre de la même manière que si elle a un problème autre, par exemple. Donc c'est aussi qu'on n'est pas forcé d'avoir un discours trop anxiogène. On peut être simplement dans la prise de nouvelles, raconter ce qui se passe, les petits-enfants, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on peut aussi essayer, je ne dis pas que c'est facile, mais on peut essayer d'être plus léger et puis d'essayer de répondre à une interrogation qui peut être sur le moment. Et malheureusement, la personne peut ensuite l'oublier et le reposer un peu plus tard. Donc c'est aussi comment on essaie d'avoir le plus de légèreté possible et le plus de sécurisation possible.
Serge Guérin, en tant que sociologue, pendant quelques années, pendant pas mal d'années, vous avez beaucoup véhiculé les valeurs du care, cette fameuse éthique de la sollicitude, qui a souvent d'ailleurs été moquée dans le passé, trouvé que c'était un petit peu bisounours. Le care, le soin de soi, le soin de l'autre. Est-ce qu'on va enfin y revenir à ça après cette crise ? Dans le fameux monde d'après où, faut pas être forcément non plus totalement utopiste.
En tout cas, vous avez raison. Je me souviens quand je parlais de ces choses-là, on me regardait en me disant « bon, il est gentil, quoi ». Sauf que ce qu'on voit bien, alors ça ne suffit pas, bien sûr, mais le « prends soin de toi », le soin mutuel, « je fais attention à moi », pour parfiler peut-être le virus que j'ai sans même m'en apercevoir. Donc on voit bien qu'il y aurait eu et il y aurait plus de care, plus d'éthique de la sollicitude, on serait sans doute dans une situation moins difficile. Le care, c'était aussi la question des moyens, et en particulier des emplois. Là aussi, il y aurait plus de personnes, sans doute qu'on serait dans une situation moins difficile. Si on était plus dans la prévention, eh bien tiens, au cas où ça arrive, ayons des masques quelque part, par exemple. Donc on voit que le care aurait été un investissement qui certainement nous aurait fait faire des économies aujourd'hui. Mais vous savez, cette question même simplement de peut-être demain, on va se saluer différemment, c'est une forme de care, c'est-à-dire je suis peut-être porteur, je veux faire attention et je vais pas serrer la main, faire la bise nécessairement
demain,
à l'autre personne.
Demain, je ne ferai plus la bise alors peut-être, ça se trouve. C'est triste quand même. Wow.
Ça peut être triste, mais parfois on se salue, on se salue sans même se regarder.
C'est vrai.
Donc après tout, voilà.
Si Jean-Marie, comment nous allons faire demain?
On va se toucher le coude, hein, c'est ça qui est recommandé en ce moment.
C'est ça.
Oui, peut-être se coucher le coude.
Coucher le coude.
Oui, en tout cas, simplement cette expression de dire je vais être ma bise, je fais un petit peu attention, c'est-à-dire de l'attention que je porte à l'autre. Et la première démarche du care, c'est tout simplement ça, faire attention à nous et à l'autre.
Faites attention aussi à vous, mon cher Serge Guérin. Merci d'avoir été avec nous ce matin, parmi les experts et les témoins de Sud Radio. Et tout de suite, on prend la direction de Toulouse à 9h43. Bonjour Christine Bouillot.
Bonjour, bonjour à tous.
Reporter Sud Radio
bonjour
à
Christine.
Toulouse, que connaît bien Jean-Marie, n'est-ce pas?
Et que connaissent tous les auditeurs d'ailleurs
sûr,
de Sud Radio.
Évidemment.
C'est la question qu'on se pose avec elle d'ailleurs. Qu'est-ce sera notre avenir après le 15 avril? On attend tous justement la déclaration d'Emmanuel Macron ce soir à la télévision, jusqu'à quand va durer le confinement. Et puis parmi les explications à la décision que prendra le chef de l'État, il y a notamment le fait que toutes les régions sont pas touchées de la même manière, Christine.
Oui, en effet, Jean-Marie, on peut s'apercevoir que ce bilan du virus n'a pas tout à fait la même ampleur dramatique. Eh bien, on va dire dans les deux tiers du pays. Alors, si les régions, on l'a dit, Grand Est, Île-de-France, Hauts-de-France, sont durement touchées, il n'en est pas tout à fait la même chose et pas dans la même proportion pour d'autres régions. Les mêmes ailleurs où l'on transfère d'ailleurs, on l'a vu, ces malades depuis plusieurs semaines afin de désengorger, ce qui est logique, les hôpitaux parisiens ou alors de l'Est de la France. On peut dire que les hôpitaux de Bretagne, de la région Sud ou encore d'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, ne sont pas encore arrivés, au dire des médecins, à saturation de leurs services de réanimation. C'est des régions qui semblent donc plutôt épargnées. Alors, c'est un critère qui va peser, il faut le savoir, dans la décision ce soir du président de la République, parce que visiblement l'objectif pour lui, c'est de faire adhérer tous les Français à ces mesures de confinement qui s'annoncent prolongées. C'est pas simple, que l'on soit dans une région touchée et d'autres moins, où on comprend pas forcément, car le danger justement de ce confinement déconfinement trop rapide pour des régions début mai, et bien avec les ponts qui vont s'enchaîner derrière tout au long du mois de mai, et bien ça risque de provoquer cette fameuse, avec des déplacements, deuxième vague de malades tant redoutée, Jean-Marie, dans les hôpitaux français.
Et voilà. Et du coup, Christine, si le virus est moins actif dans certaines régions, y compris le Grand Sud, est-ce que ça veut dire aussi que le confinement est moins respecté?
Je m'attendais à votre question. Oui. Alors, je vais vous faire un peu à tous les deux une réponse de Normande. À la fois oui et à la fois non. Alors, le respect de ces règles, c'est ce qui peut expliquer en partie la maîtrise du nombre de cas assez peu important de l'engorgement des services d'urgence. Pourquoi, effectivement, dans ces régions, on est moins impacté pour l'instant par la maladie? Eh bien, beaucoup de médecins vous disent c'est parce que il y a les mesures de confinement. Même dans les fameux clusters qu'on a pu voir, notamment dans les Pyrénées-Orientales du côté de Perpignan, eh bien, les mesures ont fini par porter leurs fruits en partie. Et puis les préfets aussi, les autorités gendarmes et police le disent aussi, les contrôles dans leur majeure partie, eh bien, ont fini également par convaincre la population qu'il fallait limiter ses déplacements et les contacts avec l'extérieur, même si on a pu voir par exemple certains aller ce week-end à l'ouverture des jardineries. C'est important parce que il y a eu une petite règle qui s'est assouplie de ce côté-là avec des mesures de distanciation, mais il y avait beaucoup de monde. Et puis évidemment, je vous dirais non aussi de l'autre côté, certains n'ont pas voulu, pas ou pas compris les règles de confinement strictes. Alors les plages sont bien restées fermées, il y avait toujours quand même cette tentation, vous imaginez bien, d'aller se promener et de profiter de ces belles journées de printemps, qu'on soit sur la côte basque, sur la côte atlantique ou sur la côte méditerranéenne, y compris aussi en montagne. C'est pour ça aussi qu'il y a le coup de sang entre les urbains et les ruraux. Et puis aussi, il y a cet exemple qu'on a vu tous à la frontière espagnole.
Costa Brava,
certains ont réussi à passer, mais également de l'autre côté, côté Pays Basque, il y a des petites routes de montagne qui n'étaient pas fermées. C'est désormais fermé. C'est ce qui s'est passé en Cerdagne, parce que évidemment, c'est absolument dangereux de passer de l'autre côté de la frontière, dans un sens comme dans l'autre.
Bon, merci beaucoup, Christine Bouillot.
On ne peut pas passer entre les mailles du filet.
Non, bah oui.
On ne peut plus passer entre les mailles du filet. D'ailleurs, 600 euros d'amende
ont pris
deux touristes françaises qui étaient allés sur des plages sur la Costa Brava. Merci beaucoup,
Christine
Bouillot, reporter.
Merci à vous, bonne journée.
À Toulouse.
Voilà, belle journée à suivre dans quelques instants nos témoins experts Sud Radio. On va parler chocolat, Je sais que vous êtes gourmand, mon cher Jean-Marie.
Et c'est la saison.
Alors comment vendre malgré tout? C'est lundi de Pâques confiné, on en parle avec un artisan chocolatier tout de suite.